Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Ce qui est particulier au Québec, c'est que pendant longtemps, on a fait une histoire qui se désengageait du reste du monde. Et donc, quand on parle de l'histoire afro-québécoise, quand on parle de l'histoire noire, c'est comme si le Québec avait été en vase clos.
One day in history class,
un jour, en classe d'histoire, j'ai demandé à mon professeur pourquoi il n'y avait absolument rien dans le cours sur l'esclavage ou sur l'histoire des Noirs au Canada. Il m'a répondu, vous n'avez pas d'histoire.
Et je pense qu'omettre de parler de cette histoire, en fait, c'est omettre de parler de beaucoup de mots, beaucoup de problèmes, je dirais, sociétaux.
Oui, nous avons une histoire et nous faisons partie du récit national canadien.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quand il s'agit de récits nationaux, canadiens et d'esclavage, on a tendance à parler surtout du chemin de fer clandestin et de tous ces esclaves américains en fuite qui, au 19e siècle, ont trouvé refuge au Canada, la terre de liberté. L'image qui accompagne le plus souvent cette belle histoire est celle d'un homme noir, un baluchon accroché au bout d'un bâton qu'il tient sur son épaule, un « freedom seeker » comme on les appelait, un homme en marche. Il y a quelques années, on avait suivi la trace de ces fugitifs en quête de liberté en reportage en Ontario. Et cette semaine, on vous propose d'aller à la rencontre de leurs dignes héritiers, History Seekers cette fois. Des hommes et des femmes, afro-canadiens pour la plupart, que vous venez d'entendre, et à qui il en a dit pendant longtemps qu'ils n'avaient pas d'histoire. Et c'est à Montréal, la métropole québécoise et métissée, que nous allons les suivre, ces chercheurs d'histoire. À commencer par l'artiste, rappeur et conférencier afro-québécois Webster. Dans sa ville, Québec, il est un pionnier des visites guidées sur les traces de l'histoire noire, mais il connaît bien aussi Montréal.
Donc, ici, on se trouve sur le lieu de l'ancien Parlement du Canada, dans le Vieux-Montréal. Pendant plusieurs années au 19e siècle, le Parlement était un Parlement mobile. Donc, il se promenait un peu partout. Donc, il était à Québec, à Montréal, à Kingston, en Ontario, qui à l'époque s'appelait le Haut-Canada. Et donc, le Parlement se balade. Et en 1834, le 1er août 1834, entre en vigueur l'abolition de l'esclavage dans les Antilles britanniques. Donc, il y a une loi qui a été votée en 1833, appliquée le 1er août 1834. C'est un moment charnière de l'histoire de l'esclavage transatlantique. Et il y aura des festivités un peu partout dans l'univers britannique. Et ici, il faut se rappeler que le Canada fait partie de l'Empire britannique à ce moment-là. Et il y aura des festivités à Montréal, ici même sur le lieu où on se trouve. Le 1er août 1834, il y aura la communauté afro-montréalaise qui va se rassembler au marché Sainte-Anne sous l'impulsion du premier activiste noir au Québec, au Bas-Canada à l'époque, qui s'appelait Alexander Grant. Et donc, il y aura des prières à l'époque. Les festivités commencent toujours avec des prières. Ensuite, il y aura un discours d'Alexander Grant pour souligner comment l'Empire britannique a enfin aboli l'esclavage et que les États-Unis doivent en prendre exemple et donc de sa fierté de faire partie de l'Empire britannique à ce moment-là. Et en fait, c'est un moment qui est important parce que, pour ma part du moins, je le vois comme le début d'une tradition afro-canadienne où partout à travers le Canada, chaque 1er août, dans la plupart des grandes villes, les communautés afro-locales vont se rassembler pour festoyer, pour célébrer la fin de l'esclavage dans l'Empire britannique. Ici, pour le Québec, ça fait environ une trentaine d'années que l'esclavage a amorcé sa disparition. Toutefois, ce qui est important, c'est que ça sera prétexte pour la communauté afro-montréalaise de se rassembler et de célébrer quelque chose.
Ce qui est étonnant, c'est que là, on est dans le Vieux-Montréal, sur cette place. Tu viens de faire référence à quand même une date historique. Et en même temps, il n'y a pas de traces mémorielles, il n'y a pas de plaques, il n'y a rien, je crois, qui indique justement cette histoire-là. Il y a à nos pieds, par contre, dans le sol, il y a ici se trouve le premier ouvrage d'ingénierie civile
sur les égouts construits en 1832.
En fait,
c'est une petite ironie.
On retrouve beaucoup de plaques commémoratives ou d'interprétations. On commémore l'histoire du marché Sainte-Anne. On va célébrer les égouts, mais on ne célèbre pas l'histoire afro-canadienne. Donc, ça vous donne une idée un peu de où se situe dans la hiérarchie ce qu'on veut célébrer, ce qui, finalement, démontre l'importance du travail qu'on fait. Parce que si même les autorités en place ne veulent même pas se pencher sur cette histoire-là, bien, on doit nous-mêmes absolument le faire parce qu'on comprend que ça ne sera pas fait sinon.
I am Dr. Dorothy Williams. I am a professor at Concordia University.
Je suis Dr. Dorothy Williams. Je suis professeure à l'Université Concordia et je suis chercheuse en histoire noire, spécialiste de la présence noire au Québec.
Eh bien, justement, dites-nous, cette présence noire au Québec, à quand remonte-t-elle exactement?
Quand on consulte les archives, on trouve des traces dès le début du XVIIe siècle, avec un premier document écrit qui concerne un noir esclavisé, emmené ici, dans la colonie, par les frères Kirk. C'était un jeune homme, je crois qu'il n'avait même pas 10 ans, et il a été vendu ici, dans la province, au départ des frères Kirk. À cette époque, la Nouvelle-France était sous le joug britannique, mais lorsqu'elle est redevenue française, le jeune homme a été vendu.
Olivier Lejeune.
Et il a été vendu ou donné à la famille Couillard dans la ville de Québec. Sa présence dans la province est devenue un repère important, celui d'une présence noire qui a débuté il y a plus de 400 ans au Québec. Mais la plupart des gens ici n'en sont pas conscients. Ils croient que les Noirs sont arrivés ici depuis quoi ? 50, 60 ans ? Alors que nous sommes là depuis des siècles. Nous étions là au début de la colonisation, de ce qu'ils appelaient à l'époque le Nouveau Monde. Mais ça fait partie de l'effacement de l'histoire des Noirs dans ce pays. Vous en avez certainement entendu parler. C'est comme si les gens ne cessaient de la découvrir et se disaient « Ah waouh, il y avait des Noirs !» alors que nous faisons partie de l'histoire de ce continent, et pas seulement aux États-Unis. Il y avait des Noirs au Mexique, des Noirs au Canada. Et quand on parle des Noirs au début du Canada, on parle d'esclavage. Mais j'imagine que si j'allais frapper maintenant à la porte de mes voisins, juste là dans ma rue, et si je leur parlais d'esclavage, ils me claqueraient sûrement la porte au nez en me disant que ça n'a jamais existé.
Et pourquoi alors, justement, cet effacement ?
In Québec, the very first history book that was written
au Québec, le tout premier livre d'histoire qui a été écrit pour décrire le peuple, essayer de décrire qui sont les Canadiens français, a été écrit par François Garneau. François Garneau, en 1845, je crois, a écrit ce livre, La première histoire des Québécois. Et dans ce livre, alors que l'esclavage avait été aboli en 1834, il écrit « L'esclavage n'a jamais existé au Québec ». Et c'est seulement à sa mort, lorsque son fils va rééditer le livre, que là, il lui dit « Oups, désolé, on a fait une erreur ». Mais c'est trop tard. C'est ancré dans les consciences que l'esclavage n'a jamais existé ici. Cela a été effacé du récit national, de ce que c'est d'être Canadien. Donc les Noirs sont toujours vus comme étrangers, exotiques ou extérieurs, comme si nous étions en dehors de ce récit de la colonisation, alors que nous étions là, au cœur de la colonisation européenne.
Je pense que la principale chose, c'est qu'après que l'esclavage est fini, il n'y a personne qui a intérêt à en parler parce que tous les gens l'ont accepté. Ce n'est pas tous les gens qui sont devenus esclavagistes, maîtres d'esclaves, mais ils acceptaient.
Franck Mackay, historien de la communauté noire à Montréal.
Vous avez ici des prêtres qui sont devenus maîtres d'esclaves, vous avez des hommes de loi, des politiciens, les gouverneurs, les intendants, les sœurs, congrégation de sœurs qui ont eu des esclaves, tout le monde participait, tous les contrats étaient signés devant notaire. Alors, c'était tout à fait acceptable. Hein? Puis je pense que pour la plupart des gens, ben, on n'a rien à voir avec ça, mais on ne critiquait pas non plus. C'était le monde où il y avait des maîtres et des serviteurs, des servantes. Tout le monde avait des serviteurs et des servantes, même les familles quand même assez humbles, il y avait des servantes, des serviteurs.
Mais on n'a pas d'idée de combien de personnes ça aurait pu concerner, cette servitude.
Marcel Trudel, l'historien Marcel Trudel, qui a été le premier à aller défricher le terrain et à trouver...
En 1960.
Oui, qui avait écrit son livre. Trudel avait trouvé à peu près 4000 esclaves en tout, hein, noirs et indigènes, pour la population esclave ici.
Justement, il y a une réalité qu'on connaît peu, mais qui est importante dans l'esclavage ici au Québec. Ouais,
l'esclavage amérindien.
C'est l'esclavage amérindien.
Ouais, ouais.
Parce que c'était 2/3.
Ouais, ouais.
En tout cas, c'est les chiffres qu'on avance.
Oui, c'est les chiffres que Marcel Trudel a avancés. Puis c'est peut-être raisonnable aussi de penser qu'il y a surtout eu des Autochtones. Mais pour les chiffres, moi, je me méfie beaucoup des chiffres qui... J'avais essayé un été, j'avais regardé les notes que j'avais, puis j'ai comparé avec le dictionnaire des esclaves de Marcel Trudel, puis j'avais trouvé qu'il y avait peut-être une centaine d'esclaves noirs que j'avais trouvé que lui n'avait pas. Alors, il faudrait vraiment que ça soit refait. Mais je pense que c'est drôle, hein? Il y a bien des gens qui ne s'intéressent pas à cette question-là. D'abord, pour eux, ça n'a vraiment pas influencé le développement de la colonie. Ce n'est pas comme si on dépendait des esclaves ici pour cueillir le sucre. Quand on pense qu'aux États-Unis, au moment où se déclare la guerre civile en 1861, il y avait à peu près 4 millions d'esclaves qui existaient à ce moment-là, sans compter tous ceux qui avaient disparu dans les années précédentes. Quand on regarde ça, puis on regarde le Québec ici, on se dit, bon, il n'y en avait presque pas. Alors, ça ne comptait pas, ça n'avait rien à voir avec l'histoire du Québec comme telle.
Je pense qu'au Canada, notre construction en tant que nation s'est toujours faite en opposition aux États-Unis. Et les Canadiens se sont toujours estimés meilleurs. On n'a peut-être pas de supériorité économique, mais on a une supériorité morale. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas eu d'esclavage. Et cela fait partie de notre credo au Canada, comme de dire que l'esclavage canadien était bénin. Certains avancent que la religion catholique aurait limité l'avilissement des esclaves noirs et les aurait humanisés. Beaucoup de Québécois ont endossé le rôle de parrain ou de marraine pour leurs esclaves, pour leur communion, les baptêmes. Ça les rapprochait de leurs esclaves et leur permettait de maintenir un ascendant sur ce qu'ils considéraient malgré tout comme leur propriété humaine. Mais vous savez, cette idée d'esclavage domestique, ça ressemble beaucoup à ce qui se passait dans le nord des États-Unis. Parce que là-bas, il n'y avait pas d'économie de plantation non plus. Donc il y a des ressemblances entre ce qui se passait ici en Nouvelle-France et ce qui se passait à New York, ou à Boston, ou dans n'importe quel autre état du nord des États-Unis.
Ça ne veut pas dire que c'était any less horrifique.
Cela ne veut pas dire que c'était moins déshumanisant ou atroce pour ces personnes réduites en esclavage, qui avaient été arrachées à leur culture, à leur famille, et qui avaient dû endurer la déportation transatlantique pour arriver ici et survivre. Donc c'était vraiment avilissant pour toutes ces personnes, fières et noires, de se voir réduites à l'état de biens meubles. Sachant que les Noirs, ici, étaient considérés comme un signe extérieur de richesse. Ils valaient plus cher que les panis, les esclaves autochtones. Ils avaient un certain cachet. Donc si vous aviez un esclave africain dans votre maison, cela voulait dire que vous aviez les moyens. Mais je ne veux pas les réduire à des victimes, car nous avons beaucoup d'exemples de résistance ici, comme il y en a eu aux États-Unis.
Québec History X nous ont effacé du tableau, mais pourtant...
Montréal dans les années 1830, une ville effervescente, demandez-le à Alex Grant, d'où était-il originaire? On ne l'a jamais su, mais peut-être bien que sa mère a fait les plantations du sud. Ce que l'on sait, c'est qu'il nous venait de New York la même année, ouvrait un shop au 80 de la rue Saint-Paul. Économie et élégance, c'est ce que disait son ad, le premier black à Montréal, a publié dans un journal. Apparemment, le swag, il vendait perruques et parfums, nettoyait et reprisait les vieux vêtements presque parfaits. Un homme industrieux, intelligent et respectable, un ami de l'humanité, écrivait un journaliste local. Et pas n'importe lequel, c'était pour le Vindicateur, un journal bac canadien aux accents revendicateurs. Parce que tu vois, Alex Grant était un activiste positif, agitateur, 19e siècle activiste.
Alex Grant, il était là, un point c'est tout. Sur sa vie, il a misé le tout pour le tout. A bossé avec la tête et le cœur, était-ce l'heure? Non, non, non.
Alex Grant, Webster l'a découvert grâce au travail de Frank Mackay avant de lui dédier ce morceau. Et dans la ville de Montréal, au cimetière du Mont-Royal, on trouve une autre figure de la résistance noire. Son nom, Shadrach Minkins, un homme né en servitude en Virginie qui va fuir jusqu'à Montréal après une rocambolesque évasion et rébellion à Boston en 1851 qui va marquer les mémoires aux États-Unis. Cette histoire, méconnue au Canada, Webster l'a racontée récemment dans un balado pour Radio-Canada qu'il a appelé « Résistance ». Et des histoires de résistance, il y en a plein à Montréal.
Ici, on est devant l'ancien restaurant chez Boris, qui apparemment a fermé parce que la terrasse, la nature a récupéré ses droits.
Ça fait un peu abandonné, là.
Exact. Chez Boris se trouve l'ancienne maison de John Trim. On est sur la rue McGill. John Trim avait été asservi et en 1793, John Trim a eu ou a récupéré sa liberté. C'est très flou en fait, mais on sait qu'il va se lancer dans le commerce de jambon salé, dans le jardinage et surtout l'immobilier. Et John Trim va acquérir plusieurs propriétés, dont celle-ci ici sur McGill, et John Trim va devenir riche. Il va passer du statut de personne asservie à homme riche en peut-être une dizaine d'années. John Trim va devenir un des piliers de la communauté afro-montréalaise et John Trim va se marier dans la première décennie du 19e siècle avec une femme du nom de Charlotte. Charlotte est née en Afrique. Capturée dans son enfance, elle était amenée dans les Antilles britanniques, sur l'île de Saint-Vincent, vendue à une famille Cook. Les parents Cook décèdent un après l'autre, à peut-être 2-3 ans de différence. Et donc, elle va être léguée à la fille Cook, Jane Cook, qui, elle, va déménager à Québec avec Charlotte et va déménager aussi par la suite à Montréal. En 1798, Jane Cook décide de vendre Charlotte. C'était une mesure souvent que les gens faisaient quand ils manquaient d'argent, décidaient parce que l'esclavage, c'est aussi un investissement. Et donc, décide de vendre Charlotte et Charlotte la prend. Elle s'enfuit. Février 1798, Charlotte s'enfuit et elle est rattrapée. Elle est amenée devant le juge James Monk. On dit à Monk, voici Charlotte, une esclave, elle est en fuite, il faut la punir. Et Monk s'en va dans les livres de loi. Il réalise qu'il n'y avait aucune loi en lien avec l'esclavage ici. L'esclavage n'était pas légal, mais un esclavage de fait. Et Monk dit, bien, écoutez, il n'y a pas de loi, je ne peux pas la punir. Je la quitte. Charlotte est acquittée. Donc, elle retourne chez elle ou possiblement ici même chez John Trim. Et d'autres personnes asservies à Montréal voient Charlotte. Et ils décident à leur tour de s'enfuir. Manuel Allen s'enfuit. Judith s'enfuit. Robin, Lydia, Jane s'enfuit. Plusieurs d'entre eux sont rattrapés, sont amenés devant le juge James Monk. Et Monk dit, écoutez, il n'y a pas de loi, je ne peux pas les punir. Et donc, toute personne que vous allez amener devant moi, je vais les libérer. Et donc, c'est comme ça que s'amorce la disparition de l'esclavage ici, au Bas-Canada, au Québec, au début des années 1800.
Pendant longtemps, on a dit que l'esclavage avait fini ici en 1834 avec la loi britannique de 1833. Mais
l'abolition?
Oui, l'abolition de l'esclavage. Mais ça ne s'est pas fait ici avec la loi britannique. Ça s'est fait 30 ans plus tôt ici au Québec. C'est un juge ici. Ce sont des tribunaux ici où les esclaves se sont présentés à partir des années 1790. Ils prenaient la fuite. Ils restaient sur place. C'est pas comme s'ils s'en allaient loin. Ils restaient ici. Il y en a deux qui se sont fait arrêter, dont Charlotte. La première s'est fait arrêter. On lui dit « Tu vas retourner chez ton maître ». Elle dit non. Ou ta maîtresse, dans son cas. Elle dit non. On la met en prison. Elle fait une demande au tribunal, une demande de bref d'habeas corpus. C'est une procédure par laquelle les autorités doivent expliquer sous quelle loi ils vous retiennent en prison. Et puis ça, ici, on n'a jamais passé de loi pour les esclaves qui dit qu'ils doivent être emprisonnés s'ils s'échappent de chez leur maître ou leur maîtresse. Alors, ça tombe. L'esclavage tombe. Les esclaves se réjouissent puis partent sans permission. C'est fini. Pour les propriétaires d'esclaves, c'est la fin de l'économie esclavagiste. C'est la fin de la valeur monétaire des esclaves. Donc, il n'y a personne qui va en acheter. Si on les vend, ben, il n'y a personne qui va payer. Alors, c'est la fin de l'esclavage à ce moment-là.
Si loin, si proche, écoutez, vous voyagez.
Excusez-moi, merci d'être présent. Je me présente, mon nom est Rito Joseph. Aujourd'hui, on va faire une visite sur la présence de la communauté noire dans le Vieux-Montréal. On ne peut pas baisser le volume, donc on ne va pas rester ici. De toute manière, on va se déplacer. La visite va durer aux alentours d'une heure, maximum une heure et demie. Et n'hésitez pas à poser des questions. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas entendu ce que j'ai dit? C'est bon, tout le monde a entendu. Je vais vous demander de me suivre et on se déplace à l'instant présent.
Après avoir quitté la place d'armes entre les gratte-ciel du Wall Street montréalais et la basilique Notre-Dame, on va pouvoir s'entendre et surtout écouter Rito Joseph. Ce conférencier, passionné d'histoire, a lancé en 2017 Black Montréal Experience, des tours qui recensent la présence et l'histoire de la communauté noire à Montréal. Et ce jour-là, son groupe était plutôt fin connaisseur, composé d'une vingtaine d'agents du musée McCord Stewart, le musée d'histoire sociale de Montréal, qui a engagé un processus de décolonisation de ses pratiques muséales avec des formations en inclusion et des visites comme celle-là. On retrouve Rito et son groupe au bord du Saint-Laurent, dans la vieille ville, sur le site de Pointe-à-Caillère, le lieu de la Fondation de Montréal.
Sachez que lorsque Paul Chaumier de Maisonneuve et Jeanne Mance vont fonder Ville-Marie, Montréal en 1642, ils viennent ici sur les traces de Samuel de Champlain. Est-ce qu'il y en a ici qui ne connaissent pas Samuel de Champlain? J'imagine que dans votre domaine, c'est impossible. On connaît le pont, on connaît le boulevard, on connaît le mail, on connaît l'école, mais la personne, bref. Donc, pourquoi je vous parle de Champlain? Eh bien, Champlain il va avoir un poste de traite de fourrure exactement à l'emplacement qui va devenir le cœur de la fondation de Ville-Marie. Mais une chose qui est très importante avec Champlain, c'est lors de son expédition, en fait, sa première expédition, lorsqu'il arrive ici avec le sieur du Gadémont, il arrive avec une personne qu'on appelle Mathieu d'Acosta. Monsieur Mathieu d'Acosta, en fait, c'est un traducteur, un interprète, un linguiste, aussi, bon, navigateur marchand, on va dire, à temps partiel. Il arrive avec Samuel de Champlain, sieur du Gadémont. Il va être l'interprète entre les Français et les Micmac. Et donc, je pense que c'est aussi important parce que ce monsieur d'Acosta a un nom portugais. Dans certaines sources, on dit que c'est un mort. Dans d'autres sources, on dit que ses racines remontent au royaume Congo. Et je pense que c'est important de comprendre qu'à la genèse de ce pays qu'est le Canada, donc il y a une personne blanche, européenne, française, il y a un homme noir et il y a un autochtone.
Pardon? Tant qu'elle est dans la diversité au niveau de la fondation, il y a une femme en plus.
Oui, tout à fait, bien sûr. Mais on parle avant que ce groupe-là, ce groupe de personnes arrive. Oui, mais tout à fait, tout à fait. Il y a une femme qui est la cofondatrice, Jeanne Mans. On n'a rien à dire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions? OK, donc maintenant, on se tourne vers cet emplacement. Qu'est-ce que vous pensez qui se trouvait là il fut un temps? Chez vous?
Un marché.
Un marché. La douane, quoi d'autre? Jugement public, comme quoi par exemple? La pendaison d'Angélique. Qui dit la pendaison d'Angélique? Les gens sont pas avec toi, les gens sont pas là. Est-ce qu'il y en a ici qui ne connaissent pas Marie-Joseph Angélique? Marie-Joseph Angélique, c'est une dame noire en fait, qui a été accusée d'avoir mis le feu à Montréal en 1734. Donc, de par son existence, elle nous ouvre une porte sur la condition, mais aussi la vie des personnes esclavagisées en Nouvelle-France. Marie-Joseph Angélique, elle est née à Madère. On dit qu'elle a été vendue à l'âge de 12 ans et qu'elle se rend par la suite upstate, donc à Albany, qui faisait partie de la Nouvelle-Angleterre, avec un marchand néerlandais. Et ce marchand néerlandais, par la suite, va la vendre à François Poulain de Francheville, marchand réputé dans Ville-Marie, en Nouvelle-France. Et François Poulain de Francheville va l'emmener ici, où elle va recevoir le nom Angélique. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, je pense qu'Angélique est le nom qu'elle va recevoir de Thérèse Coing de Francheville lorsqu'elle aura fait une fausse couche et qu'elle voulait appeler sa fille Angélique. Donc elle va appeler sa nouvelle propriété Angélique. Très important sur la vie d'Angélique, c'est qu'elle est perçue comme une esclavagisée qui ne se comporte pas comme telle, c'est-à-dire que les gens lui reprochent d'être arrogante. Elle n'est pas soumise dans le sens propre du terme, mais elle n'est pas non plus la personne esclave typique qu'on aurait voulu. Marie-Joseph Angélique, elle va être accusée d'avoir mis le feu lorsqu'elle va se lier d'amitié avec Claude Thibault. Monsieur Thibault, en fait, il paye sa dette, il est déporté de la France, il habite ici et il travaille aussi chez les Francheville. Il n'est pas esclavagisé, donc lui, il reçoit un petit salaire. Et lorsqu'ils vont se lier d'amitié, bien, la relation amicale devient une relation amoureuse. Donc, ils vont se fréquenter, ils vont faire une tentative de fuite. Donc, ils se font prendre par les mousquetaires. Et pourquoi je vous raconte l'histoire comme ça? C'est que si je vous raconte chronologiquement, c'est facile à voir, mais tout n'est pas blanc ou noir, si je me permets le terme. François Poulain de Francheville lui avait promis la liberté. Justement, elle va la franchir, mais il va mourir. Marie-Joseph Angélique, maintenant, est avec sa veuve, Thérèse Coing, qui, à ce qui paraît, aurait des problèmes financiers. Et donc, il menace de vendre Marie-Joseph Angélique et de l'envoyer dans une des plantations les plus féroces, qui est la colonie de Saint-Domingue. Aujourd'hui, c'est Haïti. Marie-Joseph Angélique fait une tentative de fuite. Mais lorsque le 10 avril, il y aura le feu qui va arriver. Premièrement, c'est un des feux les plus meurtriers en ce qui a trait à l'histoire de la Nouvelle-France. Il y aura une quarantaine, près d'une cinquantaine de maisons qui vont être rasées. Rappelez-vous, à cette époque-là, c'est les années 1730. On est à Montréal, les maisons sont en bois, sont allumées avec des torches. Donc, c'est un brasier. Eh bien, cette Marie-Joseph Angélique va être une des personnes qui va se faire arrêter. Il y aura, je vous dirais, une vingtaine de personnes entre le 10 avril et le 21 juin. Il y aura une vingtaine de personnes qui vont témoigner contre Marie-Joseph Angélique, mais personne n'a vu qui a mis le feu. Au fur et à mesure, plus le procès du juge Rimbaud va avancer, plus ça va converger vers le fait que nous ne connaissons pas la personne coupable, mais nous pensons que cette personne est Marie-Joseph Angélique. Donc, en d'autres termes, nous n'avons pas les preuves, mais si nous devons blâmer quelqu'un, ça sera elle. Et donc, ça s'est passé en 1734, pendant près d'un demi-siècle, un siècle et demi, excusez-moi. On n'entend pas parler de cette histoire jusqu'à ce que l'histoire refasse surface. Et une des personnes qui a longuement recherché cette histoire est l'historien Marcel Trudel, parmi tant d'autres historiens.
En l'année internationale de commémoration de la lutte contre l'esclavage et de son abolition, décrétée par l'Organisation des Nations Unies, cette plaque est dédiée à la mémoire de Marie-Joseph Angélique, esclave noire, figure emblématique de l'esclavage au Québec, qui, inculpée de crimes d'incendiat, fut jugée, pendue, puis brûlée sur la place publique à Montréal en 1734 et dont les cendres furent jetées au vent. Pour empêcher l'oubli et rappeler que l'esclavage a été pratiqué ici jusqu'à son abolition en 1833, cette plaque est remise à la Ville de Montréal par le gouvernement du Québec ce 23 février 2004.
La plaque pour Marie-Joseph Angélique, d'après moi, doit être la première plaque au Québec pour commémorer une personne afro-descendante ou africaine. Et une des choses les plus particulières concernant Marie-Joseph Angélique, c'est que la personne qui l'a exécutée était un bourreau martiniquais, un homme asservi qu'on a acheté pour remplir le fils de bourreau. C'était à une époque où il y avait une pénurie de bourreaux en Nouvelle-France. Parce qu'en fait, le bourreau était une personne honnie de la société. Personne ne voulait parler au bourreau, personne ne voulait toucher même au bourreau. Et en 1733, le gouvernement de la Nouvelle-France achète une personne asservie en Martinique, un homme condamné à mort pour s'être sauvé trois fois, Mathieu Léveillé. Et en fait, on lui a donné le choix tout simplement, soit qu'on t'exécute ou t'exécute les gens au Canada. Et donc, il va prendre le second choix, va arriver à Québec. Et quelques mois après son arrivée, il va faire sa première exécution, Marie-Joseph Angélique. Et avant de l'exécuter, il sera chargé de la torturer, lui appliquer la question ordinaire et extraordinaire, parce qu'elle disait qu'elle n'avait pas fait le crime. Mais à l'époque, on dit, si on t'exécute, c'est que tu es coupable. Et donc, si tu dis que tu ne l'as pas fait, on va s'arranger pour que tu dises que tu l'as fait. On installe des planches le long des jambes et on enfonce des coins pour enserrer les jambes très fort, jusqu'à ce que ça casse, en fait. Et elle dit qu'elle l'a fait. Et Mathieu Léveillé, après cette confession forcée, il va la pendre, va brûler son corps et répandre ses cendres au vent. Et ça, ça va plonger Léveillé dans une profonde dépression, qu'à l'époque, on appelle la mélancolie. Et Mathieu Léveillé, il voulait être libre. Et la première personne qu'il exécute est très probablement la première femme noire qu'il rencontre ici.
Et ça, ça témoigne bien de l'horreur de ce système, où ouais. Finalement, on propose à un homme peut-être d'acquérir sa liberté, ou peut-être qu'il joue sa survie, en torturant et en tuant une autre femme asservie comme lui.
Oui, exactement. Et donc, c'est lui probablement qu'en acceptant ne savait pas que ça allait être ça, sa première exécution. Et ça montre aussi toute la pression psychologique liée à l'esclavage aussi. Et la pression, peut-être un euphémisme, peut-être un mot qui n'est pas assez fort. Mais ça montre toute la dimension psychologique liée à l'esclavage.
Et en dehors du vieux Montréal, celui qui voyage en quête d'histoire noire dans la ville se doit d'aller aussi dans le quartier de la Petite Bourgogne, ou Little Burgundy. De nos jours, la jeunesse locale associe surtout ce nom à une marque de streetwear. Ignorant tout, ce quartier, à la fois fief militant et artistique de la communauté noire historique de la ville, surnommée jadis la Harlem du Nord. Et c'est justement pour lutter contre cet effacement historique que Rito Joseph propose aussi des tours dans ce faubourg du sud-ouest de Montréal. Surtout que depuis la construction d'une autoroute en 1967, le quartier sera balafré et ses habitants noirs dispersés à travers la ville. Jadis populaire, la Petite Bourgogne l'est toujours, affichant le taux de logements sociaux le plus important du pays, avec sur les murs des fresques qui racontent l'histoire noire du quartier. On suit Rito en visite avec un groupe de jeunes Montréalais.
Bon, on va regarder ce terrain-là qui se trouve juste ici. Ça, c'était l'emplacement de ce qu'on appelait en fait avant le Negro Community Center. Le premier centre communautaire noir à Montréal se trouvait à cet emplacement. En fait, le centre communautaire existait depuis 1927 et a aménagé là en 1955. C'était une ancienne église qui a été convertie, en fait, qui était un centre communautaire irlandais, Ivory Community Center, et par la suite, ça a été le Negro Community Center. Et c'est un endroit où il se passait beaucoup de choses. Et malheureusement, en fait, ça a été vendu à un investisseur privé et là, peu de temps après, ça a été démoli, 2014, donc récemment. Vous êtes né en quelle année?
2009.
Ah bon, voilà. Peu de temps après votre naissance, ça a été démoli. Récemment, le terrain a été racheté par la ville de Montréal et en fait, il y a un conseil d'administration qui est mis sur pied pour la reconstruction et remettre sur pied ce projet communautaire.
Sachant que c'est pas facile à deviner parce que là, c'est un terrain vague et il y a quoi? Que des arbres derrière des grilles.
Vous voyez, les pierres sont encore là.
On voit les pierres?
Oui. Oui, les pierres sont encore là, en fait.
Et en fait, ce centre... Son rôle, c'était quoi exactement dans le quartier de la Petite Bourgogne?
En fait, le rôle de ce centre, c'était en fait ce qui tenait en place les familles, c'est-à-dire que la plupart des hommes noirs travaillaient dans les wagons de train, quittaient pendant des jours, voire des semaines, et les femmes s'organisaient avec le centre. Ça a été l'initiative du révérend Charles H. F. et ça a pris naissance dans le sous-sol de l'église, qui était en quelque sorte aussi là où la communauté avait son safe space, son espace. Là, ils se sentaient en fait acceptés, reçus, mais aussi qu'ils savaient qu'ils pouvaient recevoir de l'aide. Et c'était aussi un centre culturel, il y avait aussi une bibliothèque, donc ça faisait partie de ce centre communautaire aussi. Est-ce que vous avez des questions? Donc là, on va marcher, on va voir quelques murales. Puis voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions.
C'est un quartier où vraiment la communauté noire était vraiment, vraiment mise en valeur. Mais c'est pas le seul quartier où il y avait des noirs. Ça,
on peut dire que c'est le quartier noir, ou du moins c'est le quartier où est-ce qu'il y a le commencement de l'histoire noire en termes de communauté. Il y a eu des noirs avant ça, on s'entend. Mais en termes de la situation communautaire, bon, on va dire pour le 19e siècle. Ici, on a une murale. Qui vous pensez qui se trouve sur la murale? Qui dit Nelson Mandela?
Qui dit Martin Luther King?
Un musicien? Quel genre de musicien? Jazz. Ok. Donc ici, on a la légende du jazz, Oscar Peterson, qui est né, qui a grandi dans le quartier de la Petite Bourgogne. C'est un des plus grands pianistes de l'histoire de l'humanité. Ok, qui joue à deux mains, qui est ambidex, qui a joué avec les grands artistes qu'on a nommés, les Duke Ellington, les Ella Fitzgerald, etc. Mais c'est aussi quelqu'un, pendant longtemps, qui était la fierté du quartier. Cet homme a eu une carrière qui a duré à peu près 50 à 60 ans.
Il a encore en vie?
Non, il est mort en 2007. Donc, il est né, il a grandi à Montréal. Il a eu le succès international, performé un petit peu partout.
Il est né à Montréal?
Né, grandi dans cette partie de la ville,
wow.
Petite Bourgogne, Saint-Henri.
Ok, oui, wow, quand même,
tout à
quand
fait,
même.
Un enfant de chez nous.
Okay.
Ouais. Une des premières personnes à avoir eu du succès international de Montréal.
Wow.
Ouais.
Most of the people that are there that have been depicted on their walls made a name for themselves, an international name.
La plupart des gens qui sont représentés sur ces peintures murales se sont fait un nom par elles-mêmes, une renommée internationale. Et c'est intéressant parce que cette période du jazz à Montréal continue de jouer un rôle important dans les mémoires, mais surtout pour les Blancs. Ils veulent aller aux sources de l'histoire, aux origines du jazz noir à Montréal. Bien sûr, il y avait des clubs de jazz en dehors de la Petite Bourgogne, mais ces clubs excluaient les Noirs, hormis les musiciens, bien sûr. Donc si vous aviez Louis Armstrong qui jouait dans un club du centre-ville, moi, en tant que résidente noire de Montréal, je n'aurais pas été autorisée à entrer dans ce club. Et il a fallu attendre un long moment pour que les Noirs soient acceptés dans certains endroits de la ville. On peut dire que Jim Crow a vécu à Montréal, c'est sûr. Et en parlant de Jim Crow, je parle de l'exclusion des Noirs de certains espaces publics et privés. Ce n'est qu'après l'ouverture de clubs à Saint-Antoine ou autour de Notre-Dame, des clubs ouverts à tous, que le jazz noir à Montréal a réellement innové. Ils ne se contentaient pas de reprendre les standards. Ils faisaient des jams, réinventaient la musique, et c'était vraiment l'âge d'or de cette culture, qui est née au cœur de la communauté noire de Montréal. Et cette nostalgie d'un âge d'or s'exprime encore aujourd'hui avec notre plus grand festival à Montréal, qui est le Festival international de jazz. Mais j'insiste là-dessus, si l'on parle de jazz à Montréal et d'héritage, il faut remonter à la communauté noire ici. Quand on disait qu'Harlem s'était déplacé au nord au début des années 20 en raison de la prohibition américaine. Donc, tout cela explique pourquoi les figures les plus reconnues ici sont des musiciens de jazz qui ont vécu dans notre communauté de la Petite Bourgogne. Mais remarquez que la communauté noire de la Petite Bourgogne était minoritaire. La communauté noire vivait ici, mais la Petite Bourgogne n'était pas un quartier exclusivement noir. Et je crois qu'on représentait au mieux 25% de la population. C'est tout.
Et donc c'était un quartier multiculturel, ouvrier.
Absolutely. There were Faubourg Saint-Joseph and Faubourg.
Absolument. Il y avait le Faubourg Saint-Joseph et le Faubourg Saint-Antoine. Ces deux quartiers se sont développés quand plusieurs compagnies de chemin de fer y ont installé leurs sièges. Ils ont construit des gares de dépôt. Et à ce moment-là, les Noirs de la ville ont commencé à être embauchés par la société américaine de train Pullman, qui était installée ici.
C'était quand, ça ?
Disons autour de 1870, 1880-90. À cette époque, les Noirs ont été recrutés en masse pour le transport ferroviaire, notamment en tant que porteurs.
But in the early years that I'm talking about, they would have had many different jobs on the railway.
Mais dans les premiers temps, ils avaient accès à différents emplois sur le train.
There was a backlash of white labor.
Ce n'est qu'au tournant du XXe siècle qu'il y a eu un retour de bâton des travailleurs blancs, quand leurs collègues ont décidé qu'ils ne voulaient pas que des hommes noirs aient le même pouvoir économique
qu'eux.
Et donc, ils ont fait en sorte que les compagnies écartent les Noirs de certains métiers. Là où avant ils pouvaient être conducteurs de train, ils ne pouvaient plus être conducteurs. Là où avant ils pouvaient être superviseurs, ils ne le pouvaient plus. Ces métiers étaient désormais réservés aux Blancs, qui étaient les seuls autorisés à les exercer. Et avec le temps, la seule perspective d'emploi pour les Noirs dans les chemins de fer a été porteurs de wagons-lits ou red caps qui portaient les bagages. Et donc, porteur est devenu le synonyme d'homme noir à Montréal.
L'image du porteur qui sert le client blanc est intimement lié à l'esclavage parce que quand George Pullman va inventer le wagon-lit en 1865, il va embaucher des personnes noires récemment sorties de l'esclavage, hein, parce que l'esclavage est aboli en 1865 aux États-Unis à la suite de la guerre de sécession, mais il y a toute une main-d'œuvre qui entre dans le marché. Et George Pullman va engager ces personnes-là, mais pour entretenir la bonne vieille vision du noir qui sert le blanc. Le wagon-lit va entrer au Canada en 1875, dix ans plus tard, et les compagnies ferroviaires canadiennes vont intégrer ce schéma promotionnel-là d'utiliser des personnes noires comme porteurs. Donc, ils vont importer cette vision-là. Et ce qui est particulier, c'est que les porteurs sur les trains, on les appelait toujours George. Quel que soit le nom du porteur, son nom est George. Et donc ça contribue aussi à l'invisibilisation, à l'effacement de ces personnes-là, de ces identités-là. Ce n'est qu'un corps noir au service de la personne blanche.
Et en même temps, ce sont des hommes qui ont fondé l'un des premiers syndicats noirs d'Amérique du Nord.
Oui, parce qu'en fait, les syndicats blancs ne voulaient pas représenter les porteurs noirs. Et donc, ils n'ont pas eu le choix de s'organiser eux-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que les porteurs n'avaient pas d'ascension sociale, n'avaient pas de mobilité verticale, mais il y avait une mobilité horizontale, une mobilité géographique. Des gens qui sont à Montréal vont à Halifax, vont à Winnipeg, vont à Toronto, vont à Chicago, vont à New York, vont à Boston. Et cette mobilité-là va permettre de faire le lien entre les différentes communautés afro-nord-américaines. Parce que tu es à Winnipeg, ben, tu vas manger dans le quartier noir. Tu es à Montréal, tu vas te faire couper les cheveux dans le quartier noir. Tu vas à New York, tu vas à Harlem, et ainsi de suite. Et donc, ils vont faire circuler les idées et les porteurs vont devenir un peu le fer de lance du mouvement des droits civiques des premières décennies du 20e siècle. Et donc, les porteurs vont créer les chapitres de la Union de Marcus Garvey, donc la Universal Negro Improvement Association, à Toronto, à Montréal, à Halifax. Ce sont des porteurs qui vont être au cœur de ces associations-là, créer des chapitres du NAACP, qui est cette grande association afro-états-unienne.
Donc, l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur.
Ouais. Et encore une fois, ce sont les porteurs qui vont être au cœur de ces initiatives-là. Et leurs femmes, les femmes des porteurs aussi, vont créer des associations pour s'entraider parce que les hommes sont toujours partis. Eh bien, les femmes, elles s'entraident. Et donc, ils vont créer ici à Montréal le Colored Women Club.
Où... Le club des femmes de couleur.
Oui, exactement. Et donc, ce sont des gens qui seront fortement politisés. Et plusieurs d'entre eux vont aller devant les tribunaux pour contester les pratiques ségrégationnistes. Et donc, les porteurs seront des éléments importants des communautés afro-nord-américaines.
Cette histoire, qui est l'histoire noire, n'appartient pas seulement aux Noirs. Elle appartient aux personnes qui ont côtoyé ces Noirs. Elle appartient aux Européens, elle appartient aux Autochtones, elle appartient à toute personne qui est sur Terre, qui est en vie et qui décide en fait d'en avoir un apport positif avec. Et moi, je parle de normaliser, c'est-à-dire, très rarement, on va parler de l'histoire des Blancs, l'histoire caucasienne. Lorsqu'on parle de l'histoire caucasienne, on parle de l'histoire. Je veux dire, lorsqu'on parle de les découvertes européennes, on met très peu le mot européen. Je veux dire, on parle de l'époque de la découverte, mais pourtant, pour nous, c'est plus l'époque de la traite transatlantique. Bref.
On dit les grandes découvertes.
On dit les grandes découvertes. Et je pense qu'ici, parfois, on a tendance à se cacher de l'histoire, à dire bon voilà, ça c'est l'histoire des Noirs, donc on va en parler pendant 28 jours, pendant le mois de février, et le reste de l'année, les personnes noires sont noires à l'année longue.
Oui, parce qu'il y a le mois de l'histoire des Noirs ici au Canada, aux États-Unis, en France un petit peu.
Tout à fait, mais je pense que ce qu'on perçoit comme l'histoire des Noirs, parfois on oublie à quel point cette histoire fait partie de l'histoire globale. C'est-à-dire qu'ici, sans l'histoire des Noirs, il n'y a pas d'histoire complète. Si on parle de Champlain, on doit parler de Da Costa. Si on parle de la Nouvelle-France, on doit mettre la lumière sur Marie-Joseph Angélique, on doit parler d'Olivier le Jeune, on doit parler d'Alexander the Great, on doit parler de toutes ces personnes. Et on n'en parle pas parce qu'on met ça dans la catégorie les Noirs. Donc si jamais on parle d'une expédition qui s'est passée en 1606, en 1604, eh bien on va parler de toutes les personnes sauf le Noir, parce que le Noir, on va en parler quand on en parle d'histoire des Noirs, vous voyez? Moi, je trouve que ça a un effet un peu pervers. Mais je comprends aussi la nécessité de mettre la lumière sur l'histoire des Noirs, parce que c'est une histoire qui a été occultée pendant tellement longtemps qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, on ne peut plus faire l'autruche et garder cette histoire dans l'ombre.
En février 2024, le mois de l'histoire des Noirs au Québec s'est donné pour titre, pour son édition, Plusieurs nuances, une histoire. Une manière de rappeler la diversité des communautés noires aujourd'hui dans la province. Sachant qu'à Montréal, on retrouve plus de la moitié des Afro-Québécois. Parmi eux, des Afro-historiques, disons, rejoints par des Caribéens, haïtiens en tête, mais aussi aujourd'hui de plus en plus d'Africains. Cet événement n'est pas qu'historique, il est aussi l'occasion de faire le lien entre passé, présent, d'étudier les continuités historiques, de parler du racisme, des discriminations et du sort réservé aux communautés noires. Et tout cela, on en parle la semaine prochaine pour le second épisode de ce voyage, toujours en quête d'histoire noire, à Montréal. Laure Allary, Céline Develay-Mazurel, on vous salue, chers auditeurs. Bonne semaine à vous, à l'écoute de la Radio Mondiale.